L'un dans l'autre, l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous.
En cette fin de rentrée culturelle, nous avons eu envie d'emmener nos micros au monastère royal de Broue à Bourg-en-Bresse. C'est un lieu de patrimoine que beaucoup de burgiens et burgiennes connaissent. Édifié au début du XVIe siècle par Marguerite d'Autriche pour son défunt mari Philibert le Beau, au début du XXe siècle, le monastère s'ouvre au grand public avec l'installation du musée municipal. En 2014, il est élu monument préféré des Français. Le monastère fêtera ses 500 ans en 2032. Aujourd'hui, il se veut être un lieu culturel à part entière. Pour parler de ce qui va se passer prochainement au monastère royal de Broue, nous avons rencontré Romain Bourgeois, qui en est l'administrateur depuis mars dernier.
On retrouve l'interview tout de suite après les brèves. L'un dans l'autre, les brèves.
Auvergne-Rhône-Alpes signe une nouvelle convention pour l'inclusion des personnes handicapées.
Mardi 16 septembre, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique ont signé à Lyon une convention sur 4 ans, entre 2025 et 2029, en faveur de l'inclusion des agents en situation de handicap. Avec un taux d'emploi proche de 13% fin 2024, soit plus du double de l'obligation légale, la région poursuit une politique volontariste. Le nouveau partenariat prévoit un budget de 1,4 million d'euros, en hausse de 35% par rapport à la période précédente.
8 priorités ont été définies: informer les agents sur leurs droits, améliorer le maintien dans l'emploi, développer la prévention, renforcer les politiques de reclassement et de recrutement, expérimenter de nouvelles actions d'inclusion et accroître l'accessibilité numérique.
La convention, qui a pris fin en 2025, avait permis 80 recrutements, 493 aménagements de postes et la formation de 400 agents aux enjeux du handicap.
Fête de la science dans l'Ain, plus de 45 événements gratuits du 3 au 13 octobre.
Du 3 au 13 octobre, donc, la fête de la science se déploie dans tout le département de l'Ain avec plus de 45 rendez-vous gratuits autour des sciences, des techniques et de l'industrie, accessibles à tous les âges. La soirée de lancement aura lieu mardi 30 septembre à 20h à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse avec un cabaret scientifique intitulé Intelligence, mêlant innovation locale et culture populaire. 4 villages des sciences seront proposés, Bourg-en-Bresse les 4 et 5 octobre au Technopôle Alimentech, à Meximieux le 4 octobre à l'espace Vaugelas, Oyonnax le 11 octobre au Centre culturel Aragon et Ferney-Voltaire le 11 octobre au Château de Voltaire.
Tous ces événements sont en accès libre. D'ailleurs, Radio B vous accueillera pour pratiquer la radio le samedi 4 après-midi à Alimentech.
Le programme complet est disponible auprès d'Altech, coordinateur de la Fête de la Science indinoise.
Radio B, les bonnes ondes.
La voie verte est bel et bien finie.
Grand-Bourg Agglomération annonce la fin des travaux du dernier tronçon de la voie verte La Traverse, reliant Saint-Just à Césaria sur 4 km.
L'itinéraire total atteint désormais 44 km de Saint-Trivier-de-Courte jusqu'au Revermont.
Cette section a représenté un investissement de 2,9 millions d'euros, dont 1,1 million ont été financés par l'État et le département de l'Ain. Les aménagements comprennent une passerelle métallique au-dessus du ruisseau de Trécona et une voie dédiée sur le pont franchissant l'autoroute A40. La traverse dessert en tout 13 communes, 8 zones d'activité, 3 zones commerciales, plusieurs centres de ville et de village,
ainsi que des sites touristiques et culturels comme la plaine Tonique, le monastère royal de Broue ou la forêt de Seyon.
Réservée aux piétons et véhicules non motorisés, elle constitue un axe structurant pour les mobilités douces, adaptées aux trajets quotidiens comme aux loisirs.
L'un dans l'autre, l'interview.
Réinventer le patrimoine local, repenser un lieu bien connu des habitants, ouvrir encore plus le monastère royal de Broue au grand public. Nous en avons discuté avec Romain Bourgeois, arrivé depuis quelques mois au monastère en tant qu'administrateur. Avec lui, on évoque le lieu, ses événements, son patrimoine, sa nouvelle saison culturelle, ainsi que les futures ambitions pour les prochaines années. Dans un premier temps, il nous explique d'abord quel est son rôle au sein du monastère.
Alors le rôle, il est extrêmement large et en même temps il tient en un titre administrateur, directeur. chef d'établissement. Ce que j'aime bien dans mon travail, moi, c'est que c'est un peu... Je dirais qu'on a un peu le couteau suisse, chef d'orchestre. C'est suivre tout le travail que font les collègues. C'est donner aussi l'impulsion aux côtés des politiques. En gros, c'est vraiment faire en sorte de rejoindre un espèce de grand maillage sur... et autour de Brou.
Et avant Brou, quel était votre parcours avant votre nomination à la tête du monastère de Brou ?
On va faire un rétropédalage. Avant, j'étais directeur de l'écomusée de Rennes Métropole, voilà, donc en Bretagne, où je suis resté quelques années. J'ai réussi le concours de conservateur également du patrimoine. Et puis avant, j'ai travaillé dans le Vaucluse. J'ai entre autres été directeur du théâtre antique d'Orange, qui est connu pour ses chorégies. Et puis sinon, j'ai travaillé pendant de nombreuses années pour des écomusées, dont le réseau des écomusées de la Bresse bourguignonne. Voilà, donc je connais plutôt bien le territoire.
Est-ce que c'est pour ça ? Est-ce que c'est ça qui vous a motivé à accepter la fonction d'administrateur de ce lieu ?
Pas seulement, non. L'idée, moi, c'était pas de revenir en Bresse. C'était aussi pouvoir travailler dans un cadre aussi incroyable et magique que Brou.
Et alors justement, pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas encore le monastère royal de Brou, comment vous pouvez nous le décrire en quelques mots ?
Bon, allez, le plus simple, il est très classique, mais en même temps je l'aime beaucoup, c'est le Taj Mahal à la française. Et en plus, c'est une femme qui a construit un monument pour son époux, c'est quand même pas commun.
Aujourd'hui, le monastère est à la fois un lieu historique et un espace de culture vivante. Alors comment est-il possible d'équilibrer ces deux dimensions ?
C'est qu'à la fois c'est un musée. C'est un lieu également de recueillement, c'est un ancien monastère, une ancienne église. C'est en même temps un lieu de vie, un lieu culturel. Et en fait, je trouve moi qu'il y a une forme aussi de, encore une fois, d'identité générale qui permet d'allier en fait ces différents aspects. Et au contraire, ça s'enrichit. Si des gens viennent découvrir, par exemple, pour monuments, jeux d'enfants, qui auront lieu donc les 18 et 19 octobre prochains. On vient découvrir la danse contemporaine urbaine ici à Brou. C'est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les tombeaux, les stalles, les vitraux. Pourquoi pas aussi les collections du musée avec toutes les pièces fascinantes qu'on présente au public.
L'idée, c'est faire des relectures à chaque fois du monastère de Brou.
Ça portait effectivement un regard contemporain sur un patrimoine qui a bientôt 500 ans. Ça apportait une vision contemporaine. C'est un petit peu ce qu'on a fait avec l'exposition Fou de Dinf. Nous, c'était expliquer aussi un petit peu la place des femmes aujourd'hui dans la société. Parfois, c'est aussi amener un peu de rêve. Et on n'est pas toujours obligé de tout relier à tous les sujets du monastère royal de Brou, même si beaucoup d'actions tournent autour.
D'ailleurs, certaines programmations peuvent faire écho à l'actualité ou à la société.
Oui, c'est se détacher aussi un petit peu d'une hyperactualité de la société pour prendre le temps de venir voir de belles choses, de partager des bons moments. Je crois que c'est ça aussi un peu ce qui est le sens du patrimoine aujourd'hui, c'est cette notion de partage que beaucoup de gens recherchent aujourd'hui.
Alors, vous lancez une nouvelle saison culturelle cette année. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est quoi les grands axes ou les temps forts ?
Alors moi, je vous invite à aller voir déjà notre page internet parce qu'on a énormément d'activités, une programmation culturelle très abondante en direction d'un public très très large. J'ai envie de dire peut-être que dans les prochains points un peu phares majeurs, c'est l'ouverture de l'exposition Incarnation. Donc elle aura lieu le 18 octobre prochain. Incarnation, c'est une exposition qu'on fait en partenariat avec H2M, le Centre d'art contemporain. C'est un peu la même famille, on a deux entités de la ville de Bourg. Et puis c'est un partenariat très très fort aussi avec le MAC Lyon, donc le musée d'art contemporain de Lyon. Et ça permet en fait aux gens de Bourg de pouvoir découvrir des œuvres en lien avec les tombeaux. Puisque, encore une fois, Brou, c'est le lieu de sépulture de Marguerite d'Autriche, son époux Philibert, et puis sa belle-mère, donc Marguerite de Bourbon. C'est montrer un petit peu comment les artistes se sont emparés de la question, justement, de l'incarnation, ce qui fait corps et ce qui fait sens dans le corps. Les autres dates, je vous ai parlé tout à l'heure de monuments jeux d'enfants. J'aime bien aussi l'idée que pour Halloween, on va faire des balades contées. Une balade, entre autres, qui s'appelle « La mort dans l'art ». C'est pas « La mort dans l'âme », c'est « La mort dans l'art ». Moi, je crois aussi beaucoup au fait qu'on puisse s'ouvrir parfois à des animations qui peuvent poser questions comme Halloween. Mais après tout, Brou, c'est aussi, et encore une fois, un lieu de vie, un lieu de partage. Et dans les autres grandes dates, moi, qui me tiennent à cœur, ce sont les confs de Bresse, donc qui auront lieu, entre autres, le 25 novembre. Et en fait, ces confs de Bresse, c'est quoi ? C'est deux cycles d'expositions, de conférences, pardon, autour de Charles Quint, pour commencer. Il va y avoir ces cycles qui vont pouvoir expliquer un petit peu qui était Charles Quint. Charles Quint, en l'occurrence, c'est peut-être, j'ai envie de dire, le neveu chéri de Marguerite d'Autriche. Et puis l'autre gros point phare, le volet numéro 2, comme on le dit, de ces confs de Brest, c'est la co-cathédrale Notre-Dame de Bourg qui est en cours de restauration. Et là aussi, on va pouvoir vous parler de l'architecture, des vitraux, en bref, du temps des cathédrales.
Vous nous avez parlé de certains partenaires. Est-ce que je peux vous demander comment vous travaillez aussi avec certains artistes ?
Bourg est une ville de résidence d'artistes. Ça tient vraiment à cœur à tous les Burgiens, je pense, de pouvoir, on l'a vu l'an dernier à travers la ZOA, et ben voir un peu comment les artistes s'emparent justement des sujets contemporains ou non, et puis nous amènent à voir le monde un petit peu différemment. À Brou, il y a toujours de loin en loin quand même un sujet avec ce qui nous tient à cœur. Ça peut être la place des femmes, ça peut être aussi par l'importance de l'amour, encore une fois, ce grand geste de Marguerite pour son époux. En ce moment, on accueille une œuvre d'une artiste américaine qui s'appelle Alicia Wessler, qui est une artiste internationalement reconnue. Et en fait, Alicia s'est inspirée d'une anecdote selon laquelle Philibert et Marguerite se seraient rencontrés au cours d'une fête traditionnelle dans les Flandres. Ils auraient exécuté une danse qu'on appelle la danse des œufs. Et en fait, cette danse disait que si les jeunes gens ne cassaient pas d'œufs, eh bien, ils allaient se marier. Et donc, Alicia a reconstitué en fait ses œufs sur un fond noir brillant. C'est assez impressionnant, je trouve. Et en l'occurrence, elle ressuscite cette espèce de vieille légende qui marque aussi quelque part le territoire et l'influence que les Flandres ont pu avoir sur la Bresse et la Bourgogne.
Et avec les habitants du territoire, quels liens peuvent être tissés avec ce patrimoine ?
Alors, on reçoit déjà énormément de visiteurs burgiens et du territoire. Ça, c'est pas une grande nouveauté, ce que je vous dis. On reçoit aussi beaucoup d'associations. On travaille, par exemple, avec Voix Mêlée, une association de femmes qui travaille sur des textes. On travaille toujours, évidemment, avec les Estivales de Brou, qui sont un partenaire phare. On reçoit aussi des associations sportives. Là, récemment, pour les Jeunes du Patrimoine, c'est l'antenne de l'établissement français du sang qui est venu faire une collecte de dons. Donc, on a vraiment tout ce maillage, tout ce réseau avec les Burgiens, avec les associations. On espère que ça pourra s'amplifier encore davantage. Et puis, il faut peut-être rappeler, moi, je pense que Brou, c'est aussi un emblème du territoire dont on peut tous et toutes être fiers, parce que finalement... d'où est-ce qu'on vient de la Bresse, c'est pas toujours, le territoire n'est pas toujours très connu en fait à l'extérieur de nos frontières. Par contre, quand on parle de Brou, assez souvent, ça évoque quand même certaines choses. La place de Marguerite d'Autriche, qui a dirigé une grande partie de l'Europe pendant plusieurs années, c'est quand même pas négligeable.
Et enfin, quelles sont les prochaines ambitions souhaitées par le monastère royal de Brou ?
C'est faire en sorte que les gens des environs viennent plus régulièrement, qu'il y ait vraiment des rendez-vous réguliers. Et c'est pour ça aussi qu'on met en place en fait des festivités. Par exemple, à la fin de l'année, il va y avoir toute une programmation qu'on a appelée, nous, les Lumières Enchantées. Il y a aussi un marché de la création. C'est aussi des moments de retrouvailles conviviaux qui peuvent se faire à Brou. On fêtera les 500 ans de Brou en 2032 et il faut qu'on crée en fait, qu'on commence déjà à construire ce grand anniversaire du site. Je pense que ce serait engager entre autres certaines restaurations qui vont avoir lieu dans les prochaines années. C'est continuer aussi à faire en sorte que le musée et l'église poursuivent un dialogue et en partenariat avec des institutions. Alors certainement au niveau de la région, comme on le fait actuellement avec le MacLyon. Bientôt, on recevra une exposition aussi autour du triptyque de Moulins, qui est une œuvre absolument incroyable. Qui est en lien là aussi avec, pour la petite histoire, avec Marguerite d'Autriche et avec Brou, vous pourrez le découvrir. Et là, c'est un partenariat quand même assez je vais dire prestigieux avec à la fois le musée du Louvre et le musée de Beaujeu à Moulins. Donc moi, je crois beaucoup en fait à la force de ces réseaux et au fait qu'on puisse finalement continuer à inscrire Brou dans ce grand paysage culturel des monuments français.
On remercie Romain Bourgeois d'avoir répondu à nos questions. Si vous voulez en savoir plus sur le monastère royal de Brou, rendez-vous sur son site internet www.monastère-de-brou.fr.
Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B. L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa, merci Jimmy à la technique.
Merci Perrine et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'infos locales.
Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
En ligne ou sur 90 FM. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.